Chapitre 40. Léonie releva la tête, son nez, ses lèvres, ses gencives l'élancèrent. À ses côtés, le flic, le loup gris, visait le véhicule qui essayait de doubler d'un côté ou de l'autre et heurtait régulièrement l'arrière de la voiture dans un vacarme de tôle froissée. Une toile d'araignée se dessina sur le pare-brise du 4x4. Le conducteur ne sembla d'abord pas touché, puis sa tête s'affaissa sur le tableau de bord, le tout-terrain partit aussitôt en travers, faucha buissons et arbustes, avant de heurter de plein fouet le tronc noueux d'un chêne.
« Tu l'as eu !»
hurla le flic sur le siège du mort, le bouc, lèvres, yeux et nez tuméfiés. Cyriane se redressa à son tour, la joue maculée de gouttes de sang. Il s'assura d'un regard que Léonie allait bien, avant de vérifier qu'Aurèle n'était pas blessée. Le conducteur levait le pied sur le chemin de plus en plus cabossé et envahi de fougères.
« Tu peux ralentir !» cria le bouc. « On est débarrassé de ces enfoirés. Qu'est-ce que tu fais de l'autre 4x4 ? C'était moi une qui te rentre dedans tout à l'heure !»
Le conducteur lâcha un rire enroué, un gloussement de coq.
« Rien dans le bide, ce gouilla !»
Roulant à une allure soutenue dans un vacarme de plus en plus pétaradant, ils débouchèrent sur un autre chemin plus large, emprunté principalement, à en croire des ornières profondes, creusées de chaque côté, par des tracteurs et autres engins agricoles. « Merci de nous avoir sortis de là, » dit Cyriane. Les yeux perçants et délavés du loup gris se posèrent avec bienveillance sur Léonie et lui. « On n'est pas encore tiré d'affaire. Qu'est-ce que vous fichiez dans le coin ?» Ils relevèrent Aurèle, toujours en état de choc, et la calèrent contre la banquette.
« Oh, c'est une longue histoire. Est-ce que ça a à voir avec cette machine à transférer les âmes ?» coupa le bouc. « Ah, vous êtes au courant de l'existence du translateur ?»
Cyriane désigna Léonie.
« Elle était mon corps d'emprunt. » Mon vaisseau, j'étais son passager. Ils avaient déménagé mon corps dans cette maison. Il fallait que je le récupère.
Une moue dubitative étira les lèvres du bouc.
Attends, tu veux dire que tu t'es baladé dans le corps de cette fille?
Elle s'appelle Léonie.
Enchanté, moi c'est Ahmed, lui Paul et lui Edmé. Tu viens d'où, Léonie?
T'en salement amoché, hein? Elle ne répondit pas, baissant la tête pour échapper au regard inquisiteur du coq dans le rétroviseur.
Clandestine, pas vrai? Reprit le bouc. « Aucune importance, on n'est pas là pour faire le sale boulot des capots de l'immigration. Tu t'es donc retrouvé dans son corps ?»«
J'ai vu le monde par ses sens pendant 4 ou 5 jours, » répondit Cyriane.
« Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre de truc ?»
Oubliant un instant de se concentrer sur la conduite, le coq remarqua trop tard le profond fossé qui barrait le chemin. La voiture, comme secouée par une explosion, perdit le reste de son pot d'échappement, se mit à zigzaguer après un saut de cabri, avança en crabe sur une trentaine de mètres avant de se stabiliser et de tirer à peu près droit.
« Fais gaffe, merde !»
gronda le bouc.
« Pas la peine de t'énerver, mec, y a rien de cassé !» rétorqua le coq. « Faut sortir de cette putain de forêt avant que les autres rappliquent !»« Tu y es déjà venu ?» demanda le loup gris. « Plusieurs fois, mais je la connais pas très bien. Espérons que ce chemin débouche sur une route. »
Léonie jetait des coups d'œil réguliers en arrière, guettant le deuxième 4x4 sous la voûte ajourée des ramures. Elle avait posé le pistolet à ses pieds. Plus envie d'être une autre Tania. Une fille au sourire d'ange qui tuait de sang-froid. Les trois hommes lui inspiraient confiance, surtout le loup gris avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. C'était la première fois que des flics ne la terrorisaient pas. Et elle était aux côtés de l'homme qu'elle avait porté quelques jours. Leur complicité, leur intimité, bien que de courte durée, avait tissé entre eux un lien indestructible, une confiance inébranlable. Séparée de lui par un océan, elle continuerait de baigner dans son âme. Le bouc se tourna de nouveau vers Cyriane.
« Alors, ça t'avance à quoi de te balader dans le corps d'une autre ?»
Il parlait en s'appliquant à remuer le moins possible ses lèvres gonflées.
« Ça permet de voir le monde d'une autre façon, d'explorer divers aspects de l'humanité. » « Quel intérêt ?»
Découvrir quelqu'un d'autre, le comprendre.
Pas besoin de changer de corps pour comprendre l'autre. Et elle, tu l'as comprise?
Cyriane marqua un temps de silence, les yeux soudain embués. Bien plus que ça.
Tu veux dire que tu en es tombé amoureux?
Intervint le loup gris. Bien plus que ça. Bien plus que ça. Un amour inconditionnel. Un amour par-delà l'espace et le temps. Le loup gris hocha la tête avec un sourire enfantin.
Si cette machine permet de tomber amoureux, c'est pas une si mauvaise invention. Pas besoin de machine pour tomber amoureux, pas vrai le miso ? Chanta le coq.
Ils sortirent de la forêt quelques kilomètres plus tard, débouchant sur une route étroite qui serpentait entre cultures de céréales et pâturages.
Le second 4x4 ne les avait pas pris en chasse.
« Ils doivent déjà prendre leur disposition pour déménager leur foutue machine, » dit le bouc.
Le temps de prévenir la hiérarchie et d'envoyer des troupes dans le secteur.
Il n'y aura plus une seule trace d'activité et plus personne dans la propriété, pas même un cadavre.
Ça veut dire qu'on va laisser cette bonne femme et les autres cinglés torturer leurs semblables sans tenter de les arrêter?
S'insurgea le coq.
Calix t'est protégée au plus haut niveau. Elle nettoie leur saloperie, elle en tient quelques-uns par les couilles.
On appelle tout de même le divisionnaire adjoint et notre chef de groupe, trancha le loup gris.
Si ça peut te donner bonne conscience,
persifla le bouc. L'image de la chatte gisant sur les cailloux de la clairière revint à l'esprit de Léonie.
Calixte, c'est la femme aux yeux jaunes?
Elle ne fera plus de mal. Je crois bien qu'elle est morte.
Ils arrivèrent dans un village briard ensommeillé, se garèrent sur la place de l'église et entrèrent dans l'unique café du coin, l'un de ces troquets tout droit surgis de la Grande Guerre. Le patron, un homme à la moustache et à l'estomac imposant, leur demanda d'autorité s'ils cherchaient un garagiste parce que leur bagnole, hein, on l'entendait des kilomètres à la ronde et que, vu son état, il risquait une bonne dizaine d'amendes en cas de contrôle. Ils éclatèrent de rire et commandèrent des petits déjeuners. Seul Cyrian retrouva quelques billets chiffonnés dans sa poche. Paul s'enferma dans la cabine téléphonique pour prévenir Giovanni et rassurer son ami Manon.
Rien de nouveau pour Sylvaine, s'inquiéta Edmé à son retour.
Le sixième de groupe avoua, Penaud, qu'il avait oublié de prendre de ses nouvelles. Giovanni et le divisionnaire adjoint se chargeaient de contacter les brigades de Meaux, de Crécy et de Coulommiers. Le rendez-vous était fixé à la gendarmerie de Crécy à 10h30. Paul et Edmé devraient guider les brigades jusqu'à l'entrée de la propriété et superviser le bouclage du secteur en attendant l'arrivée des renforts du raid et des équipes de la crime. Le patron du café leur donna les indications pour gagner Crécy, à environ 12 kilomètres.
« Je vous laisse, » dit Ahmed. « Je dois pas apparaître dans tout ça. Je suis un homme de l'ombre. »
La voiture les avait emmenés tant bien que mal jusqu'à la place centrale de Crécy. Le vacarme du moteur s'accompagnait désormais d'un horripilant grincement de tôle raclant le bitume.
« Qu'est-ce que tu vas faire ?» s'enquit Paul.
« J'en sais foutre rien. Mes chefs vont me passer un savon avant de me balancer sur une autre mission.
Ça veut dire qu'ils vont laisser tomber celle-là ? » ?»«
Pas le genre de la maison. Ils enverront quelqu'un à ma place pour continuer le travail. »
Edmé serra la main d'Ahmed.
Comment te remercier?
Accordez-moi juste une petite faveur, les mecs. Ne parlez pas de moi. Pour le reste, on est quitte. Salam.
Ahmed s'éloigna de sa démarche chaloupée et disparut dans une rue perpendiculaire à la place. À la gendarmerie de Crécy, on nettoya les plaies et bosses à l'antiseptique et on commanda une ambulance pour transporter Aurel, toujours en état de choc, à l'hôpital de Meaux. Cyrian et Léonie l'accompagnèrent après avoir laissé leurs coordonnées au loup gris. On les convoquerait dans quelques jours au quai des Orfèvres pour prendre leur déposition. Le loup gris promit à Léonie qu'on lui ficherait la paix avec ses papiers et qu'il s'arrangerait pour lui obtenir une carte de séjour en bonne et due forme. À l'hôpital, Cyrian s'occupa des formalités d'admission d'Aurel. Il ne se souvenait pas des numéros de téléphone de ses parents, mais de leur adresse parisienne. La standardiste se débrouillerait pour les prévenir et organiser avec eux le transfert de leur fille dans un établissement plus proche de leur domicile. Léonie et Cyrian se rendirent dans la chambre d'Aurel avant de partir. Allongée sur son lit, toujours murée dans un univers d'hébétude et de silence, elle ne réagissait ni à leur présence, ni à leur voix, ni à aucune autre sollicitation. Le psychiatre du service, le hibou, parla d'état de stupeur, estimant qu'elle pourrait retrouver une vie normale après une période de repos et un traitement approprié. Ils décidèrent de rentrer à Paris par le train de banlieue et gagnèrent la gare à pied. Au bout de 10 minutes de marche, Cyrian prit la main de Léonie. Elle la lui confia volontiers. Il s'arrêta encore au bout de 5 minutes pour l'attirer à lui et l'embrasser. Cette fois, les lèvres déchirées de Léonie ne se dérobèrent pas. Elle s'abandonna au baiser de Cyrian avec une ferveur et une joie qui scellaient sa réconciliation définitive avec le monde. Ils restèrent un long moment enlacés sur le trottoir inondé de soleil et de chaleur printanière.
« Qu'est-ce qu'on va devenir, Cyrian ?»« Je ne sais pas. En tout cas, je ne te quitte plus. On a toute la vie devant nous. Pour nous. Mais tes parents, ils ne vont pas me... »
Cyrian posa l'index sur la bouche de Léonie. « Soit ils t'adorent, soit ils ne me voient plus. Et si on ne veut pas de toi en France, alors c'est moi qui te suivrai en Afrique.
On est si... différents ?»
Elle avait les larmes aux yeux.
Cyrian la serra contre lui. Loué soit la confrérie des titans. Sans elle, je n'aurais jamais eu l'occasion de te connaître. Pour le reste, qu'ils aillent se faire foutre. Léonie demeura un long moment suspendue dans les éclats de son rire.
Sylvaine, désolé, pas de nouvelles, on a été débordés ces temps-ci.
Une quinzaine de voitures stationnaient maintenant sur l'allée de terre qui menait à la Falière. Giovanni venait tout juste d'arriver avec le divisionnaire adjoint et un autre ponte de la PJ. Edmé se demanda si celui-là, yeux fouineurs, mine sinistre, allure de vautour, n'était pas membre du gouvernement occulte évoqué par Ahmed. Les gendarmes des trois brigades et les hommes du raid s'étaient déployés depuis un bon moment autour de la propriété. On n'attendait plus que le signal du divisionnaire pour relever le filet en espérant ramener des poissons intéressants. Edmé en doutait. Les opérations s'étaient déroulées avec une lenteur exaspérante. D'abord, le rassemblement chaotique des brigades. Ensuite, la mauvaise volonté manifeste de deux des trois capitaines de gendarmerie. Enfin, l'arrivée tardive du raid et des équipes de la crime. Ahmed avait raison. On ne ratisserait rien d'intéressant dans la propriété. Ni matériel, ni homme, ni cadavre, ni indice. On avait laissé à la bande le temps d'effacer les traces de ses activités. Après un bref conciliabule avec ses supérieurs, Giovanni revint vers Edmé et Paul.
« Bon boulot, les gars. Vous avez l'air crevés. Prenez une voiture et rentrez vous reposer. On se charge du reste. On se verra demain au bureau pour le rapport. »
Au regard furtif que lui adressa Paul, Edmé comprit que son équipier pensait la même chose que lui. Le Corse, qui n'avait rien d'un philanthrope, se débarrassait d'eux. Ils acceptèrent la proposition sans se faire prier. Paul, brûlant d'envie de retrouver sa Manon, Edmé, pressé de prendre des nouvelles de Sylvaine. Ils s'installèrent dans la voiture la plus proche de la route et prirent aussitôt la direction de Paris.
« Qu'est-ce que tu vas faire, le miso ?» demanda Paul alors qu'il franchissait la porte de Bercy.
« Mon boulot, tout simplement, » répondit Edmé. « Tu sais bien que tu ne trouveras rien. »
Edmé hocha la tête. « On nous présentera bientôt un beau coupable, » reprit Paul. « Calixte, par exemple. Elle est morte. C'est la candidate idéale. »
Tout le monde serait satisfait. Les élus, la presse, l'opinion. Mais Edmé n'avait pas l'intention de laisser tomber. Pas maintenant. Elle était là, reposant sur le lit blanc, les yeux grands ouverts, la mine alanguie et limpide des convalescents.
Elle lui sourit lorsqu'il entra dans la chambre. Sa beauté le bouleversa. Il s'assit sur le bord du lit et lui baisa le creux de la main de toute la tendresse dont il était capable. Malgré son impatience, il avait pris le temps de se laver, de se raser et de se changer avant de prendre le chemin de l'hôpital. Un toubib croisé dans le couloir lui avait dit qu'elle conserverait sans doute une légère raideur dans la jambe gauche, mais qu'elle ne souffrirait d'aucun autre handicap qu'une légère claudication. « Tu es revenu parmi nous ?» murmura-t-il d'une voix dont il ne cherchait pas à contenir l'émotion. Elle le fixa un petit moment avant de dire « On dirait que toi aussi, tu reviens de chez les morts. » Il y a un peu de ça. J'ai été me jeter une deuxième fois dans la gueule de notre ami Calixte. Elle t'a encore laissé partir, hein ? J'avais une telle envie de te revoir. » Elle lui posa la main sur la nuque et la tira à elle. Aucune chaîne, cette fois, pour entraver leur mouvement.
Vous venez d'écouter Porteur d'âme de Pierre Bordage, lu par Damien Viteka. Une production d'Audible Studios.